Ézéchiel 33, verset 7. Toi donc, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël, afin que lorsque tu auras entendu une parole de ma bouche, tu les avertisses en mon nom. Spécialement cette pensée, je t'ai établi comme sentinelle. Dieu a établi dans l'Église des apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme bergers, comme enseignants et évangélistes. Et les Saintes Écritures nous disent que de tels hommes veillent sur nos âmes et devront rendre des comptes au jour du Seigneur. Nous voulons que vous sachiez que nous sommes là pour servir le Seigneur et pour vous servir. Nous sommes à votre disposition et nous voulons faire ce que Dieu nous demande. Il a placé, établi des sentinelles sur les murs de Sion. Si nous lançons parfois des avertissements et des mises en garde, ce n'est pas pour vouloir quelque chose à un autre. Non, nous sommes des sentinelles. Dieu a ouvert nos yeux et il ne doit rien arriver qui puisse nuire à l'Église. Et si l'ennemi s'y met, alors nous devons avertir, alors nous devons mettre en garde. C'est ce qu'ont fait les prophètes et les apôtres. Je voudrais également lire brièvement quelques passages du prophète Ésaïe, puis du Nouveau Testament, et aussi puis du Nouveau Testament. Ésaïe 44, du verset 24, jusqu'à la première partie du verset 26. Ainsi a parlé l'Éternel, Ésaïe 44, 24. Jusqu'au verset 26. Ton Rédempteur qui t'a formé dès ta naissance. Je suis l'Éternel qui opère toutes choses, qui ai étendu les cieux, moi seul, qui ai étendu la terre, qui était avec moi. Celui qui contrecarre les signes miraculeux des bavards, qui fait passer les divins pour des insensés, qui fait partir les sages en les couvrant de honte, qui fait passer leur science pour de la folie. Maintenant arrive le verset, la partie. Qui réalise la parole de ses serviteurs, qui accomplit le dessein annoncé par ses messagers. C'est en cela que nous croyons. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs et ses prophètes tôt, matin et soir. Il a tout fait annoncer à l'avance, de sorte que nous puissions voir la véracité de Dieu par l'accomplissement de la parole prophétique. Dieu n'a pas parlé en cachette. Dieu n'a pas non plus agi en cachette. Cela est connu sur toute la terre que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il réalise ses promesses et qu'il accomplit le dessein annoncé par ses serviteurs et ses messagers. Je voudrais poursuivre la lecture dans Ésaïe 46, versets 10 et 11. Dès le commencement, j'ai fait connaître l'issue et dès les temps anciens, ce qui n'était pas encore arrivé. J'ordonne que mon dessein s'accomplisse et j'exécute tout ce qui me plaît. Le verset 11, je le lis avec un peu d'hésitation, mais je le lis quand même. J'appelle de l'Orient l'oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme de mon choix. Comme je l'ai prononcé, je le fais arriver. Comme j'en ai eu l'intention, je l'exécute. Je ne veux pas du tout saisir cette pensée ici, mais vous savez qu'il y a toujours des gens qui trouvent un passage de la Bible. S'il est écrit ici, par exemple, j'appelle l'homme de mon choix. Alors, il y a aussi des gens, s'il est écrit ici de l'Orient, alors il se retrouve aussi là et il s'oriente même en fonction des points cardinaux. Je n'oublierai jamais ce jour-là, cela s'est passé en Israël, dans la ville de Elat, quand j'y suis resté 3 jours en son temps, ou 2 jours et demi. Soudain, j'entendis un bruit le soir, alors qu'il faisait à peine nuit, dans l'eau. Et là, un homme a baptisé tout ce qui passait. Et j'ai vu ce qui s'est passé pour tout ce qui passait. Donc pour faire court, c'était un homme du Japon. Et il a dit, il est écrit dans la Bible qu'un homme viendra de l'Orient. Et je suis cet homme. Oui, j'ai dit, mais est-ce que tu viens de l'Est, c'est vrai, et tu es un homme, mais c'est certainement pas l'homme dont Dieu a parlé. Mais bien aimé, ce n'est pas la prétention, mais le fruit d'un ministère. C'est le fruit d'un ministère qui légitime un appel et un mandat divin, un envoi divin. Pas les paroles, mais ce que Dieu peut faire. C'est ça la preuve. Que ce soit clair pour vous, je ne suis sûrement pas cet homme, ça c'est certain. Mais je fais la part que Dieu m'a confiée et je voudrais le dire très clairement aujourd'hui, ici même, en ce lieu. De temps en temps, il y a des gens qui comprennent mal quelque chose. Et ils appliquent à ma personne des passages bibliques qui ne s'appliquent pas à moi. Certains le font avec des bonnes intentions, d'autres avec une intention malveillante. Je voudrais dire ici, je n'ai aucune prétention que celle d'avoir été appelé par le Seigneur et d'avoir été déterminé au ministère. Je ne suis pas spécial et je ne le serai jamais. Mais la parole de Dieu est devenue tout pour moi. Je ne suis pas un ancien d'une église locale, comme on le croit parfois. Il y a déjà eu des gens qui voulait me lire ce qui s'applique à un ancien. J'ai simplement dû leur dire, vous pouvez arrêter de lire, car la parole que vous voulez me lire ne s'applique pas du tout à moi. Un ancien d'une église locale ne voyage pas dans le monde entier. Et à lui, le Seigneur ne dit pas, je t'enverrai de ville en ville. Non, ça c'est tout à fait un autre mandat, une autre tâche, très différente. Les anciens d'une église locale ont la tâche de paître l'église locale, de veiller sur elle et d'y exercer leur service. Ceux qui connaissent les Écritures savent que des anciens ont été nommés ici et là dans les églises, ont été établis ici et là dans les églises. Paul écrit à Timothée et lui demande d'entreprendre un voyage pour établir des anciens dans les différentes églises. Il devait les nommer. Et puis il décrit l'état dans lequel doit se trouver l'ancien qui souhaite ou qui doit être installé, établi dans le ministère, dans le service. Et comme je viens de le dire, cette parole ne s'applique absolument pas à moi. Je n'ai pas été établi comme ancien, mais j'ai été mis par Dieu, établi par Dieu, dans le ministère sur toute l'église. Mon ministère ne se limite pas à ce lieu, à cette église ou à ce pays. C'est un message divin que le messager a apporté et ce message doit être porté dans le monde entier. Je voudrais lire à ce sujet Galates chapitre 1, Galates chapitre 1, verset 15. Galates 1, verset 15. « Mais quand cela a été agréable à celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et m'a appelé par sa grâce pour manifester en moi son Fils, afin que j'annonce de sa part le message du salut parmi les païens. Je ne me suis pas tout de suite adressé à des hommes, de chair et de sang. Je ne suis pas non plus monté à Jérusalem vers mes prédécesseurs dans l'apostolat. Non, je suis allé en Arabie, puis je suis retourné à Damas. Un appel divin et être établi dans le ministère n'ont rien à voir avec un choix que les hommes peuvent décider, mais ont été décidés par Dieu en raison de la prédestination divine. Je voudrais lire la deuxième partie à ce sujet, à savoir dans Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Je voulais avoir noté les passages. Peut-être n'avons-nous pas besoin de lire autant de choses. Je le dis seulement pour le bien de ceux qui pourraient être troublés. Soyez rassurés sur ce point. Dieu a connu le chemin de chaque être humain du début à la fin. Dieu est omniscient. Il connaît l'issue d'une affaire avant même qu'elle ne commence. Et il veille à ce que tout se termine glorieusement et que tous ceux qui sont destinés à atteindre le but l'atteindront par sa grâce. Je voudrais lire le chapitre 4 de l'Épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 4. Et vous le transmettre comme une requête de prière comme Paul l'a fait en ces jours-là. Et cela ainsi me tient aussi à cœur ainsi. Colossiens chapitre 4 du verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. En même temps, priez aussi pour nous, afin que Dieu nous donne l'occasion de prêcher la parole pour que nous annoncions le mystère du Christ à cause duquel moi aussi je suis enchaîné. Et que je le fasse connaître comme mon devoir l'exige. C'est un devoir saint qui nous a été imposé en vertu d'un appel divin. La responsabilité de proclamer la parole est plus grande que toute autre responsabilité sur terre. Et si aujourd'hui, en ce lieu, je dis que ma responsabilité est plus grande que celle d'un président Reagan ou dans le futur, celle de Bush ou Gorbatchev, Dieu les a placés pour percevoir des choses terrestres, comme notre monsieur Kohl et notre très vénéré monsieur von Weizsäcker et d'autres dans d'autres pays. Mais ces hommes n'ont qu'une tâche terrestre à accomplir, une tâche politique. Les hommes politiques vont et viennent, mais nous avons été établis par Dieu pour proclamer le conseil éternel de notre Dieu et pour apporter la parole de Dieu au monde entier et communiquer ce que le Seigneur a à dire à son peuple en ce temps. Quelqu'un se demandera certainement si l'on n'est pas allé trop loin dans cette évaluation des choses. Non. La responsabilité qui est liée à l'éternité doit être la plus grande, car elle va au-delà du temps et de l'espace et est destinée à toute l'éternité. C'est pourquoi la Bible parle de l'évangile valable éternellement. Il y a un point que nous aimerions encore souligner ce matin. Il y a toujours des gens qui aimeraient faire quelque chose dans le royaume de Dieu et aimeraient aider Dieu. Et quand je pense là seulement déjà à toutes les interprétations sur les tonnerres et autres, et chacune est différente, alors j'arrive quand même à la conclusion. Je prends la citation de frère Branham qui correspond tout à fait à la Bible. Il a dit, tel que personne ne connaît la venue de Jésus-Christ, personne ne connaîtra le mystère des sept tonnerres. Vous pouvez le lire noir sur blanc dans le livre des Sceaux. Et pourtant, il y a des gens qui disent simplement, voici les sept tonnerres, sont ceci et cela. Et comme nous venons de le remarquer, chaque interprétation est différente. Et il y a aussi ceux qui aimeraient bien me pousser. Cela va trop lentement pour eux. Ils voudraient déjà que ceci ou cela se produise. Si je pouvais le faire, je l'aurais fait déjà. Mais c'est l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu, l'affaire de Dieu, la chose de Dieu. Et je me garderai bien d'apporter un feu étranger sur l'autel de Dieu. Une parole pour tous ceux qui aspirent à un baptême biblique de l'Esprit, qui portent dans leur cœur un désir profond d'être scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de notre corps. Cher cœur, ne te décourage pas. Dieu enverra la pluie d'arrière-saison. Dieu fera revivre, vivifiera son œuvre et son peuple. Pourquoi se fait-il encore attendre? Je ne le sais pas. Mais je sais ceci. Il n'est pas en retard. Regardez aujourd'hui dans le monde religieux combien de mouvements charismatiques y a-t-il là? Les gens titubent d'un côté à l'autre et ensuite crient « Alléluia » derrière et devant. Puis ils continuent dans leur propre chemin. Ce que Dieu fera en conclusion dans l'Église épouse hein, doit se démarquer et se distinguer de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Les gens ne doivent pas dire « Oui, ici c'est semblable à ce qui se passe aussi ici et là, bas et là-bas. » Non, Dieu va faire quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'inédit, mais qui n'a jamais existé. Mais nous devons attendre que cela se produise. Il y a aussi ceux qui demandent si les gens tombent chez nous. Vous savez, bien que lorsqu'ils voient quelque chose, qu'il y a un évangéliste là, et avant qu'il ne touche les gens tombent déjà. Et le frère Rousse dit qu'il essouffle. Il souffle dessus. Oui, bon, je ne sais pas, mais bon, sans rire, hein, vous, que vous le croyez ou non, à Londres, au Royal Albert Hall, où environ 6000 personnes étaient rassemblées, l'évangéliste américain a soudain dit, « Regardez tous vers moi maintenant, car le Saint-Esprit sort de moi. » Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il va plus loin et il dit, « Maintenant, levez-vous tous et tendez la main vers moi et vous recevrez le Saint-Esprit. » J'étais le seul à rester assis, le cœur déchiré. Nous voulons quelque chose de réel, de vrai, d'authentique. Cela doit venir vraiment de Dieu. Nous ne voulons rien d'autre. J'ai une proposition à faire. Commencez à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour vous. Dès le premier jour de cette année, faisons-le autrement que l'année dernière. Voulons-nous, s'il vous plaît, adopter une attitude de foi envers Dieu, que nous puissions penser et croire positivement et commencer à remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait, car, soyons honnêtes, au plus profond de nos cœurs, nous savons que le Seigneur Jésus doit d'abord achever son Église, qu'il reviendra prendre sans tache, sans ride irréprochable. Il doit d'abord l'achever et la préparer entièrement. Et il le fera aussi. Il achèvera et il la préparera entièrement. La puissance de la résurrection, la puissance de la transformation, il l'accordera tout cela par sa grâce. Vous voyez, il y a par le Saint-Esprit différentes opérations. L'Esprit convainc du péché. L'Esprit conduit à la repentance. L'Esprit nous révèle la parole. Jésus a dit que quand le Saint-Esprit sera venu, il me glorifiera. L'action du Saint-Esprit est si variée. Et j'ose dire que nous avons déjà fait l'expérience de ces choses dans une large mesure et que beaucoup ont reçu plus qu'ils ne le savent eux-mêmes. Bien sûr, la clarté doit aussi régner à ce sujet. Nous croyons que Dieu accorde le baptême biblique de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit biblique. Mais comme je le vois, à quoi est-ce que ça sert que des millions dans cette génération parlent en langue? Ouais, de quel parler en langue s'agit-il? De quoi s'agit-il là? C'est tout de même une confusion. C'est quand même Babylone. Ils sont dans dans leurs anciennes, ils sont restés dans les anciennes traditions. Ils ont emporté avec eux les anciens enseignements comme un levain, comme une pâte acidifiée. Et tout est à nouveau contaminé. Nous croyons que Dieu ramène à la vérité. Nous croyons que Dieu nous imprègne de sa parole, que nous ne voulons plus rien montrer et rien faire de nous-mêmes. Nous ne voulons plus rien être et rien valoir. Ne porter dans notre cœur qu'un seul désir, celui d'être béni par Dieu et de recevoir tout ce qu'il nous a promis et qui est nécessaire pour atteindre le but, à savoir le changement de notre corps décrépit, puis l'accueil pour rencontrer le Seigneur. Chère âme, chers frères et sœurs, remerciez Dieu pour le désir qu'il a mis en vous. Et c'est ce que frère Branham a dit, bien dit, a si bien dit. Si Dieu a mis en nous un désir pour quelque chose, c'est qu'il a déjà préparé pour nous ce que nous désirons. Il a déjà mis à notre disposition. Sinon, il n'aurait pas pu mettre ce désir en nous. Je l'ai lu récemment lors d'une conférence dans le prophète Ésaïe, chapitre 28, que le Seigneur se lèvera lui-même et achèvera son œuvre. Il y a certaines choses pour lesquelles Dieu a utilisé des hommes, mais il y a une chose qu'il s'est réservée à lui-même, la rédemption de son Église, l'édifice de son Église, la construction de son Église, l'achèvement de son Église, le retour, l'enlèvement de son Église. Il le fait lui-même. Il n'a pas dit à Pierre, bâtis mon Église. Il n'a pas dit à Paul, fais-le. Qu'a-t-il dit? Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne provoqueront pas contre elle. Il est en train de le faire. Regardez, ce que nous devons comprendre, c'est quand même ceci. Dieu a utilisé frère Branham pour révéler la parole, pour placer les promesses pour ce temps sur le chandelier, pour emmagasiner la nourriture spirituelle. Mais maintenant, c'est le temps de sa distribution. C'est maintenant que nous pouvons distribuer ce que Dieu nous a légué. Mais l'achèvement se fera en même temps, au même moment, dans le monde entier. Ce qui se fait maintenant sur toute la terre, pendant des décennies, se fera alors dans le dernier tour, quand il atteindra son point culminant sur toute la terre par l'Esprit de Dieu, en même temps, au même moment, dans tous les vrais croyants. Il ne sera alors plus nécessaire de faire venir un frère particulier, d'inviter qui que ce soit. Alors là, c'est Dieu lui-même qui descendra alors d'une manière particulière pour achever son œuvre. Mais nous devons surmonter ce temps actuel. Et soyez honnêtes, si le Seigneur était venu il y a 10 ou 20 ans déjà, combien d'entre nous ici aujourd'hui et sur toute la terre n'auraient pas eu la possibilité d'être là. J'ai également écrit sur la doctrine de la parousie, qui est en effet très répandue. Il y a des gens qui affirment que Jésus-Christ est revenu sur cette terre en 1963. Et ceux qui le défendent le plus ne sont venus à la foi qu'en 1974. Mais Jésus, pour eux, serait déjà revenu en 63, oui. Alors, tout aurait été trop tard pour eux, n'est-ce pas? Non. On en est arrivé à un point où ces gens ne peuvent plus penser clairement et encore moins parler clairement. Nous avons cherché ce mot. La parousie ne signifie pas seulement la présence, mais aussi une présence, la présence physique. Ce n'est que lorsque j'entre dans cette salle qu'il y a une parousie, qu'il y a parousie. Si je ne suis pas là, ce serait un fantasme sur ma présence. Mais si je ne suis pas là, il n'y a pas de parousie. Il y a des gens qui veulent être spéciaux et qui ne se rendent pas compte qu'ils passent à côté du but. Nous ne les jugeons pas. Ils sont déjà mal lotis, déjà dans une mauvaise position. Vous comprenez? Mais nous voulons le souligner clairement. Le même Jésus qui du milieu de nous est monté au ciel, reviendra de la même manière, tel que vous l'avez vu monter au ciel. Quand Jésus reviendra, alors, il n'est pas ici sur terre. Il ne revient pas ici sur terre. Alors, moi, je suis au ciel. Amen. Il ne revient pas sur terre. Quand Jésus reviendra, il viendra nous chercher pour aller à la maison. Il n'a pas dit, préparez-moi une place ici sur terre et ensuite je reviendrai parmi vous. Non, il a dit, je vais vous préparer une place, puis je reviendrai ensuite pour vous prendre auprès de moi, afin que vous soyez là où je suis. Amen. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Comment peut-on mal comprendre ces passages clairs de l'Écriture? C'est une énigme pour moi. Le retour de Jésus-Christ est lié à la résurrection de ceux qui nous ont précédés. Car ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous qui sommes restés vivants, nous serons changés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Un frère qui, aussi ici à cet endroit, prêchait en 1976, a voulu me convaincre pendant 2 heures que l'enlèvement et le changement et tout ont eu déjà lieu. On peut à peine le répéter. Quelle imagination et fantaisie ces gens développent. Les tombes sont alors soudain les dénominations et l'on va et ils vont d'explication en explication. Oui, où cela est-il écrit dans la Bible? Ce que sont les dénominations mortes, nous le savons. Car les Saintes Écritures le disent. C'est le dernier appel. Vous, mon peuple, sortez. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai et vous serez mes fils et mes filles. L'une est la proclamation, la préparation. L'autre sera le changement et l'enlèvement. Et alors, nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Nous lisons encore. De 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il m'a estimé fidèle lorsqu'il m'a établi dans son ministère. Pas mon ministère et ton ministère. Je voudrais souligner très clairement, certains disent le ministère de Frère Branham, le ministère de Frère Franck, ou le message de Frère Branham. Au fond, c'est la parole de Dieu, le message de Dieu, l'Église de Dieu. Tout tourne autour de cela. Nous n'avons pas de ministère propre. Nous avons été établis dans le ministère de Christ, dans son ministère, dans son Église. Et c'est pourquoi nous souffrons tant des divisions, des séparations, de la dureté de cœur et de bien d'autres choses qui sont parmi le peuple de Dieu. Paul dit oui, ou quelqu'un te fera-t-il souffrir? Et je ne souffre pas avec toi. Si tous les frères savaient comment nous souffrons de la situation générale, alors ils viendraient en pleurant et dirait, pardonnez-nous. Vous savez comment c'était au jour de Salomon? Il y avait deux mères qui prétendaient qu'un enfant leur appartenait. Et qu'est-ce que c'était? Salomon, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, il a dit, laissez venir ces deux femmes. Amenez l'enfant et apportez-moi un grand couteau. Vous connaissez tous l'histoire. Puis, il a demandé aux deux dames, cet enfant est-il à toi? Elle répondit, oui. Cet enfant t'appartient-il? Oui. Alors il dit, bien, s'il vous appartient à tous les deux, je le partagerai en deux. Et ensuite, chacune de vous aura la moitié de l'enfant avec elle. Et quand il a pris le couteau, la mère a crié, ne fais pas ça. Donne l'enfant à cette femme. Qu'est-ce que c'était? Elle était la mère. Elle avait porté l'enfant sous son cœur. Et l'autre doucement, oh oui, découpe, divise. Et il a pu dire, ça, ce n'est pas la mère. Celui qui en tant que frère découpe et divise le corps du Seigneur et divise l'Église n'a pas sur son cœur le pectoral en buste qu'avait Aaron avec les 12 pierres qui représentaient le peuple d'Israël. Un véritable homme de Dieu dira, épargnez le troupeau, épargnez l'Église. Avons-nous compris cela? J'aimerais encore lire une parole que je voudrais nous donner à tous. Elle est tirée de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de découragement, mais de puissance et d'amour et d'autodiscipline et correction de soi-même. Ça, c'est la conduite de l'esprit. C'est ce que l'esprit que Dieu t'a donné produit en toi. Nous ne nous élevons pas et pointons pas du doigt, mais nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir part à ce qu'il fait maintenant. Dieu veillera à ce que dans le corps du Seigneur, les différents ministères puissent fonctionner harmonieusement les uns avec les autres. Puissent être en opération harmonieusement les uns avec les autres. Une autre tristesse m'a envahi lorsque mon frère bien-aimé me disait ce matin, il disait qu'il était attristé par l'état de sa ville et de ses environs. Mais bien-aimés, puisse-t-il vraiment arriver à ce que les choses puissent arriver à ce que chacun trouve sa place. Et je voudrais proposer à tous les frères qui ressentent l'appel de Dieu, je voudrais leur faire cette proposition. Servez avec la parole de Dieu dans l'église ou là où Dieu vous a placé. Et alors, il sera vu si le Seigneur vous a donné un ministère ou non. Alors, on verra si le Seigneur vous a donné un ministère ou non. On peut dire je suis ceci ou cela, ou bien Dieu m'a mis là ou là, m'a établi ici et là. Non, que cela soit jugé par les auditeurs. Ce sont ceux qui sont assis et qui écoutent. C'est eux qui peuvent juger si vraiment la personne a quelque chose de Dieu ou pas. Mais Dieu veillera certainement à ce que chacun trouve son compte, si c'est le droit de Dieu. Si c'est le droit de Dieu. Si nous avons nos propres idées, nos propres représentations et imaginations, alors cela ne marchera pas. Prenons cette parole à cœur et croyons qu'elle s'applique aussi à nous. Dieu ne nous a pas donné un esprit de découragement, mais un esprit de force, d'amour et d'autodiscipline et correction de soi-même. Ce n'est pas que nous nous tenions maintenant devant vous en disant ceci et cela, que nous allons faire maintenant ceci et cela. Non. Comme Paul l'a dit, nous ne tenons pas devant la chair pour dicter des choses. Comme Paul l'a dit, nous nous sommes présentés humblement au milieu de vous, ne tenant rien, n'ayant aucune estime de nous-mêmes, mais avons, dans le tremblement, proclamé la parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Je ne peux que dire, ainsi Dieu le veut et nous vivons. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la dernière annonce selon laquelle je mourrais subitement cette année d'une crise cardiaque et que Frère Rousse et Frère Schmitt seront également emportés subitement dans ce contexte et qu'un coup terrible frappera l'Église. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'ai cette prophétie, que j'ai entendu cette prophétie. Hein, et alors la personne dit, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, jusqu'à ce que, à la fin, j'ai dû poser le combiné sur le téléphone parce que je n'étais plus prêt à écouter. Nous savons que l'ennemi, j'ai dû raccrocher donc, l'ennemi va attaquer plus que jamais. Plus que jamais. Et je suis tout à fait conscient de ma condition physique. Et je suis conscient que j'ai beaucoup porté. J'ai pris sur moi beaucoup de choses, mais je ne l'ai pas fait par inconscience, mais par l'impulsion divine de l'amour, afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible sur toute la terre. Mais quand je vois toutes ces nuits blanches, dues au décalage horaire, où le jour devient nuit, pour que la nuit devienne jour, avec parfois un décalage horaire de 8 ou 12 ou 6 ou 4 heures, et cela encore et encore, où alors on le sent dans son corps. Et j'ai dit à cet homme qui se présente comme un prophète, comme beaucoup de choses, je lui ai dit, je ne veux pas repartir à la maison en 89. Je veux déjà maintenant partir. Déjà maintenant, je veux rentrer à la maison. Mais savez-vous quand est-ce que je rentrerai? Seulement quand le Seigneur me rappellera. Ni plus tôt, ni plus tard. Et seulement lorsque la tâche à laquelle Dieu m'a appelé sera accomplie. Je ne connais pas Dieu autrement. Mais vous remarquez que le monde entier, n'est-ce pas, est laissé en paix et que les attaques sont dirigées ici contre nous. Il y a une parole qui s'appliquait à notre Seigneur dans le prophète Zacharie. Abattez le berger et les brebis se disperseront. Satan s'en prend à ceux que Dieu a établis pour annoncer son saint dessein tel qu'il nous l'a transmis et laissé. Qui a été assassiné? Les faux prophètes ou les vrais prophètes? Les vrais prophètes ont été assassinés. Et le Seigneur a dit, je vous ai envoyé mes prophètes, matin et soir. Vous avez persécuté les uns, lapidé les autres, tué les autres, et ainsi de suite. Le Seigneur fera de grandes choses. Et si je ne suis plus là, d'autres frères seront là. Mais il y a déjà un léger désir en moi de voir encore ce que Dieu va faire, de vivre ce que Dieu va faire. Je crois que c'était mon frère et mon ami Kupfer qui m'a dit, frère Frank, que nous aimerions vivre ensemble ce que tu nous as prêché. Et puis, alors j'ai dit, je n'ai fait que transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur. Je n'ai pas fait miroiter des choses que Dieu n'aurait pas dites. Mais les promesses de Dieu sont oui et amen. Si vous me demandez ce qu'il y a dans mon cœur, je peux vous le dire. Sur mon cœur, c'est d'écrire une encyclopédie, un ouvrage de référence comme il n'y en a jamais eu sur terre pour présenter Dieu et son plan pour l'humanité de manière concise sous des mots-clés particuliers comme le commencement et ce que la Bible dit sur le commencement, etc. Des titres comme ça, quoi. Et je vous le dis, dès aujourd'hui, il sortira dans toutes les langues, si Dieu le permet, et si c'est dans sa volonté. Pour conclure, en donnant une information divine sur cette terre, afin que tous ceux qui sont en recherche puissent trouver. Elle n'aura pas de vide à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un tel manuel divin, j'aimerais le mettre entre les mains de l'humanité, dans l'espoir qu'il ne se passe pas seulement ce qui s'est passé au jour de la Réformation, qu'une blessure par l'épée ait été infligée, mais que tout Babylone soit démoli et que tout ce que Dieu veut appeler à sortir soit appelé à sortir. Parallèlement à cela, je voudrais m'efforcer de faire en sorte que nous ayons des émissions de radio et s'il le faut, des émissions de télévision, peu importe comment. Cela est sur mon cœur d'apporter ce message divin, pur et clair aux hommes. Ils ont été maintenus dans l'erreur de génération en génération. Ils ont le droit d'entendre la vérité. Et par grâce, nous pouvons remercier le Seigneur d'avoir entendu la pure vérité et de nous l'avoir révélée. Mais je m'attends à ce que les jalons soient posés de toutes les manières possibles en cette année 1989. Dieu seul sait si elle apportera déjà la grande percée. Il a tout entre ses mains. Nous sommes à sa disposition et disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il s'agit aussi de mettre ce dernier message à la disposition de l'humanité de manière concise et claire. Il y a des frères américains qui disent qu'environ 1000 prédications de frère Branham sont disponibles. Je pense qu'il y en a environ 500. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas publier 500 brochures, mais on peut en faire la somme. Tout ce qui est et sera trouvé dans ces sermons, les résumer et ensuite les donner et les mettre à la disposition de l'humanité. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur est assis sur le trône. Il attend que tous ses ennemis soient placés sous son marchepied, comme un marchepied. Comme un marchepied à ses pieds. Il a déjà commencé. Il conduira glorieusement. Loué soit son Saint-Nom. Je souhaite plus que jamais que nous soyons tous en contact et en communion avec Dieu. Plus que jamais. Combien sentent que la communion avec le Seigneur doit devenir plus intime. Combien y aspirent. Amen. Ça, c'est dans notre cœur. Combien sentent que la communion aussi les uns avec les autres doit devenir plus intime, plus chaleureuse. Amen. Dieu nous l'offrira à tous par grâce. Il déversera son amour saint dans nos cœurs par le biais du Saint-Esprit. Il a déjà fait en grande partie. Et il continuera à le faire. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Amen. Seigneur fidèle, nous te remercions ensemble pour cette journée de grâce en cette nouvelle année, de nous avoir permis de venir même ce matin et de nous avoir encore parlé au Seigneur. Par ta précieuse et sainte parole, ô Seigneur. Seigneur, nous te remercions de ce que des hommes et des jeunes aussi soient prêts, Seigneur, à suivre le chemin avec toi. Ô Seigneur, nous t'adorons. Ô Seigneur, et nous sommes si heureux, Seigneur, d'avoir une connaissance bienheureuse. Jésus est à moi. Alléluia. Seigneur, Dieu fidèle, je te remercie pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux qui sont venus de partout, de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord. Ô Seigneur, que nous puissions être ici en communion, que nous avons pu être ici en communion avec toi, Seigneur, et avec ta parole. Seigneur, Seigneur, je te prie maintenant avec ferveur de les bénir tous. Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous ne savons pas quand nous serons rappelés. Mais Seigneur, si telle est ta volonté, fais en sorte que nous puissions nous revoir. Si ce n'est pas ici sur terre, alors là-haut, dans la lumière, auprès de toi, Seigneur, dans ton royaume, dans ta gloire. Seigneur, je te prie d'accorder ta grâce à mon cher frère Franck. Seigneur, de le fortifier dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Accorde-nous la grâce à tous, Seigneur, même sur le chemin du retour. Oh, s'il te plaît, Seigneur, nous te prions maintenant aussi pour les malades, pour les requêtes, pour qui sont ici devant nous. Que tu puisses les exaucer, que tu puisses aider, secourir, car tu es le grand médecin. Tu es celui qui secourt dans toute détresse. Louange et remerciement à toi et action de grâce au nom de Jésus, Seigneur fidèle. Maintenant, nous te demandons aussi d'être avec nous pendant le service de baptême. Accorde ta grâce, Seigneur, à mon frère. Accorde ta grâce à ceux qui sont baptisés. Je te le demande. Je demande tout cela au nom saint de Jésus. Amen. Amen.